Bien, je vais commencer. Donc, Antoine Castano, on va essayer de faire rapidement. Donc, à partir du constat qui est un constat plutôt intuitif, mais largement partagé, du fait qu'en lycée professionnel, en tous les cas, un lycée professionnel comme le nôtre, qui forme à trois filières industrielles, donc que de garçons, on a à prendre en charge des élèves qui n'ont une conception de la relation aux autres qui n'est faite que dans le rapport de force. Des élèves capables d'attention sur un temps très limité, qui sont très résistants à entrer dans le processus de réflexion, et puis qui souhaitent en rester à un mode d'apprentissage principalement basé sur la répétition et la mémorisation. Bon, à partir de ce constat, je pensais, comme chef d'établissement, qu'il était de mon rôle de mettre en place une prise en charge individuelle des élèves qui posaient le plus de problèmes dans la classe. Des 2-3 élèves qui ont une difficulté particulière et qui relèvent ce que je pensais d'une compétence que n'ont pas les enseignants et qui souvent servent d'alibi pour ne pas aller au-delà. Donc je pensais devoir mettre en place un système qui pouvait prendre en charge de façon individualisée ces élèves-là pour pouvoir, avec les enseignants, travailler sur une prise en charge de la classe qui puisse évoluer et puis mettre en œuvre une pédagogie plus différenciée. Donc à partir de cet idée de départ, on a, avec le CRES, défini un programme de façon à avoir... faire un diagnostic des élèves entrants pour avoir une idée plus précise de la réalité des compétences des élèves que nous avions à prendre en charge. À partir de ce constat fait sur tous les élèves de la première année, en définir une méthode de repérage de ceux qui auraient besoin d'un diagnostic plus important et puis mettre en œuvre un dispositif de prise en charge individualisée. Donc c'était l'objectif que nous étions fixés au départ et ce qui nous a permis de définir le programme à l'origine. Bon, vous verrez tout à l'heure que les conclusions s'éloignent un peu de cette idée de départ. Donc là, je laisse Béatrice Lavelle vous parler de la suite.
Donc effectivement, dans le programme qui a été mis en place, dans un premier temps, il s'agissait de pouvoir... évaluer de manière assez précise quelles étaient les compétences des 4 classes de seconde, donc de tous les entrants. Donc j'y reviendrai tout à l'heure. Ces compétences, on a cherché à les évaluer à la fois sur la dimension des compétences cognitives, donc la capacité à résoudre un problème, les compétences opératoires que les jeunes avaient construites. Donc à partir de situations, problèmes... piagétienne pour voir si, du point de vue de la construction de la causalité, ils avaient mis en place ces compétences. Et d'autre part, on cherchait aussi à leur proposer des histoires pour voir comment ils avaient pu construire la notion de règle et la notion de justice. Alors, évaluer au mieux les compétences de ces élèves de manière à pouvoir aussi présenter les résultats aux enseignants et à partir de cette présentation, pouvoir se fonder sur les compétences de leurs élèves et ensuite envisager une formation de ces enseignants pour voir avec eux ce qu'on pouvait, à partir de la connaissance précise des compétences des élèves, comment pouvoir mieux les accompagner dans les situations de la classe, en essayant de leur proposer des situations qui solliciteraient les compétences des élèves, mais à partir des contenus pédagogiques qui sont ceux que les enseignants doivent proposer pour répondre aux exigences des programmes. D'autre part, dans le programme que nous avons établi ensemble, il y avait une quatrième étape qui consistait, comme on le disait, à proposer des choses concernant les élèves individuellement. Donc à partir du moment où on allait évaluer les compétences de tous les élèves, ça nous permettrait de repérer aussi avec un autre outil, tableau de bord, avec différents critères élaborés par l'établissement, donc de repérer des élèves qui auraient besoin d'un accompagnement personnalisé et donc de construire un espace projet personnalisé. avec des ateliers, mais qui s'adresseraient plutôt aux élèves individuellement, enfin qui seraient vus en petits groupes de 4 élèves, avec des ateliers de développement des compétences cognitives et des ateliers de développement du jugement moral. Donc, on voit bien que les compétences qu'on cherche à évaluer sont les compétences du développement socio-cognitif. Donc, depuis plusieurs années, avec le CRES, nous avons mené différentes recherches qui portent précisément sur l'évaluation des compétences socio-cognitives des jeunes qui sont en situation de vulnérabilité, essentiellement en situation de vulnérabilité sociale, donc qui vivent en zone urbaine sensible. Et à partir des situations qu'on propose, donc on a remanié les situations, enfin on utilise des situations piagétiennes qui sont utilisées dans l'examen opératoire classiquement, et puis des épreuves du jugement moral aussi qu'on a réélaborées. Et donc on essaye d'identifier à la fois les structures de connaissances que les jeunes ont construites, concernant la classification, les conservations. On évalue d'autre part les capacités de décentration, donc à partir de l'épreuve des trois montagnes, alors qu'on a transformé en épreuve des trois immeubles. Une épreuve qui concerne la conservation du volume spatial, donc qui est une épreuve charnière entre le niveau opératoire concret et le niveau opératoire formel. Et des épreuves de jugement moral, donc sur un questionnaire sur la construction des règles et donc des histoires sur la construction de la notion de justice, où on explicite des situations aux élèves qui correspondent à des situations de la vie d'un lycée, et en leur exposant différents cas de figure, on leur demande les sanctions qu'ils envisageraient pour essayer de réguler les activités des jeunes. Donc en fait, c'est calé sur ce que Piaget proposait en 1932, qui a été repris par Nora Fouad, par Kohlberg, donc pour essayer de voir au final quelles sont les structures de pensée que les jeunes ont construites et comment ils réagissent par rapport à ces situations. Alors, nos recherches antérieures ont montré, donc on a publié un article dans l'IJVS en novembre 2008, et puis un dans l'IRSV en 2011. Le premier portait sur des enfants qui vivent en zone urbaine sensible, suite aux travaux de ma thèse, dans lesquels on a montré que 80% des enfants qu'on avait vus à l'âge de 10-12 ans n'avaient pas construit, qui vivaient en zone urbaine sensible, n'avaient pas construit les compétences opératoires concrètes, donc n'avaient pas achevé la construction de ces opérations et manifestaient un fonctionnement figuratif du point de vue du fonctionnement cognitif, c'est-à-dire qu'il s'appuie sur les états du réel, mais sans s'appuyer sur la causalité ni sur les transformations. Et donc, à partir de là, on a proposé différents modèles d'intervention psychologiques et psychopédagogiques qui permettent, à partir d'une méthode interactive de résolution de problèmes, de solliciter les compétences qui leur font défaut. Quelles peuvent être les hypothèses qu'on peut avancer sur la non-construction de ces opérations? Essentiellement, elles semblent essentiellement liées aux sollicitations ou au type de sollicitation ou de non-sollicitation de l'environnement. Piaget nous explique bien que le passage à une logique opératoire et à une autonomie morale passe par la prise de conscience. Dans ses ouvrages, dans les études d'épistémologie génétique, donc aussi bien les ouvrages sur l'équilibration des structures cognitives que sur la prise de conscience et sur l'abstraction réfléchissante, montre que c'est le fait de questionner l'enfant, pourquoi est-ce que tu penses que, comment est-ce que tu peux l'expliquer, qui vont solliciter la prise de conscience et qui favorisent du coup le passage d'une logique de l'action, d'une logique de la réussite à une logique de la compréhension, à réussir et comprendre, comme il le définit dans la prise de conscience. Or, en observant l'environnement de ces jeunes, on se rend compte qu'ils sont précisément peu sollicités du côté de la prise de conscience et qu'au contraire, il y a d'autres logiques qui prévalent et qu'en tout cas, l'explication, l'expression de leur point de vue sont peu sollicités. Alors, l'année précédente, j'avais eu l'occasion d'aller l'année scolaire dernière, d'aller dans des classes, dans une classe de 2 TU avec des jeunes qui avaient eu des problèmes de comportement, qui avaient lancé des objets contre leurs enseignants. Et donc, avec l'enseignante, la prof principale, on avait fait quelques séances de régulation où on sollicitait les jeunes à expliquer ce qui s'était passé ou alors on proposait différentes situations. Et je m'étais rendu compte qu'ils avaient beaucoup de mal effectivement à s'exprimer mais même à s'écouter et que dans tout le travail qu'on avait pu faire au cours de 4 séances de 2 heures avec eux, effectivement, il y avait peu d'éléments de causalité. Et donc, du fait des travaux antérieurs qu'on avait pu produire et du fait des observations au sein de la classe, du fait aussi des observations des enseignants et puis de l'équipe de direction, il nous a semblé opportun, précisément, de creuser sur tous les élèves et pour voir ce qu'il en était, au-delà des hypothèses, pour pouvoir vérifier ce fonctionnement. Donc, effectivement, dans la dynamique du fonctionnement cognitif, hein, qu'est-ce qu'on observe? Alors, la conservation du volume spatial, comme je vous disais, les charnières entre les opérations concrètes et les opérations formelles, elle vient solliciter des opérations de multiplication complexes. L'épreuve de classification, c'est une épreuve de classification hiérarchique qu'on a proposée, avec des moyens de transport, donc où il s'agissait de ranger des images avec différents types de moyens de transport en mettant ensemble ceux qui vont bien ensemble afin de proposer une classification hiérarchique. Et puis une épreuve de décentration, donc où on présentait trois immeubles aux jeunes en présentant une poupée et on leur demandait, en positionnant la poupée à différents endroits, qu'est-ce que, à leur avis, voyait la poupée, en leur donnant des images qui leur permettaient de reproduire le point de vue de la poupée. Concernant le niveau de dynamique du jugement moral, de la même façon, les épreuves qu'on a proposées concernant la notion de justice et la construction des règles sont des processus qui sont observés, qui se construisent chez l'enfant du point de vue de l'autonomie morale, qui sont achevés autour de 9-10 ans. Et donc, avec la construction de l'empathie autour de 12 ans. Donc, concernant l'échantillon d'élèves qu'on a pu rencontrer, donc il y avait 12 jeunes de TU. Donc, tous les élèves ont été rencontrés en entretien individuel. Donc, 21 jeunes de 2MEI, donc c'est maintenance, et 12 jeunes de 2ELEC, électrotechnique, et 15 jeunes de 2 mécanique. Voilà, donc ce qui constitue un total de 59 jeunes donc en lycée, en seconde de lycée professionnel, qui sont âgés de 16 ans en moyenne. Donc par rapport au niveau attendu, si on prend le sujet épistémique, donc par rapport aux épreuves que nous avons présentées, il s'agit de proposer, enfin on a proposé des épreuves qui correspondaient à des âges antérieurs à l'âge qu'ils avaient. Ceci étant, on sait bien qu'il s'agit effectivement d'un niveau épistémique, donc l'ensemble de la population n'a pas construit ses structures à l'âge qui est déterminé. Et donc on a surtout cherché à savoir comment ils s'y prenaient. Alors avec la première épreuve de construction des îles, il s'agit de proposer un bloc logique avec un volume qui est construit où on dit que c'est un bâtiment qui est construit sur une île. Et puis on propose des petits cubes et on leur demande de reconstruire sur une surface plus ou moins grande, mais en tout cas différente de la première, la même chose des immeubles avec la même chose de place, en disant que les personnes doivent déménager et qu'on doit du coup proposer la même chose de place pour que tout le monde puisse y habiter. Et donc ils doivent arriver à calculer grâce au cube, enfin à trouver comment faire un calcul et comment pouvoir construire un immeuble qui contienne donc le même volume. Donc ça vient solliciter l'opération de multiplication. Concernant la deuxième épreuve, donc je vous parlais des classifications des moyens de transport, donc comment est-ce qu'ils parviennent à coordonner les ressemblances et les différences et à s'organiser, ça va avoir une influence sur l'organisation, bien entendu, sur la construction du temps, de l'espace, sur leur repérage, mais aussi sur leur manière d'organiser le monde et de comprendre le monde qui les entoure. Chacune des deux épreuves mettant en jeu, bien entendu, les opérations de causalité et la compréhension de cette causalité. Concernant l'épreuve des trois immeubles, ça vient solliciter les capacités de décentration des élèves. Donc la première étape qu'on retrouve chez les enfants, c'est déjà de se rendre compte que les autres peuvent avoir un point de vue différent d'eux. Donc c'est ce qu'on a noté dans un premier niveau. Est-ce que les élèves arrivent à différencier le point de vue de la poupée, ou est-ce que le point de vue égocentrique consiste à dire que tout le monde voit la même chose, c'est-à-dire qu'on est dans une vérité absolue qui est la même pour tous. Dans une seconde étape, l'enfant parvient à différencier les points de vue, puis dans une troisième étape, à les coordonner, c'est-à-dire à retrouver là en l'occurrence qu'est-ce que voit la poupée, pour arriver enfin à un niveau formel, au relativisme du point de vue. Donc ça semblait très important parce que quand, par exemple, j'ai un exemple qui me vient toujours en tête, quand on avait interrogé les élèves de la classe de 2TU qui avaient, au sujet d'une situation, l'enseignante avait été confrontée à une situation dans laquelle les élèves avaient pris la décision de ne pas parler pendant tout le cours, parce que voilà, ils voulaient s'en prendre à l'enseignante, ils étaient pas contents, je me souviens plus ce qui s'était passé, mais donc ils avaient décidé de rester mutiques pendant toute la durée du cours. À ce moment-là, on les a interrogés, du coup, pour revenir après coup sur la situation, et en leur disant, à votre avis, qu'est-ce que pense l'enseignant quand vous faites ça? Et donc, plusieurs élèves nous ont répondu, je sais pas, elle m'a pas dit, la prof. Donc, on verra, d'après les résultats qu'on a obtenus, mais on s'est rendu compte qu'effectivement, la personne ne leur disait pas ce qu'elle pensait, pour eux, ils ne pouvaient pas se représenter, voilà, imaginer, se représenter le point de vue de quelqu'un d'autre. Alors évidemment, en termes de socialisation, on voit bien l'impact que ça peut avoir, alors à la fois pour se représenter la cause de ce qu'on peut produire, c'est-à-dire comment est-ce que ces jeunes peuvent-ils se représenter les conséquences de leurs actes, à la fois pour se sentir acteur de leur vie, et du coup toute la question de la motivation, elle est bien sûr en jeu là, arriver à se projeter dans le temps, arriver à se construire un projet, mais aussi se rendre compte que son action a un impact, que ça peut avoir un impact sur les autres, et toute l'organisation sociale finalement va être en jeu, alors même qu'on leur demande en permanence de respecter des règles aussi, alors on le voit aussi dans les autres épreuves, sur la règle et sur la justice, quelle conception ont-ils de la règle? Est-ce qu'ils en sont encore à une conception hétéronome de la loi intangible portée par une figure d'autorité à laquelle il faut se soumettre, mais à laquelle on ne comprend pas grand-chose nécessairement? Du coup, le problème de jeunes qui resteraient dans cette conception hétéronome que normalement on dépasse à partir de l'âge de 6-7 ans, c'est qu'on est forcément dans une situation de soumission qui vient faire violence, contre laquelle on essaie de se rebeller plus ou moins sous forme de violence, dirigée contre soi, dirigée contre l'autre. Mais en tout cas, une construction qui resterait hétéronome de la règle aurait des conséquences sur les sentiments et les comportements violents des jeunes. De la même façon, on sait que cette conception hétéronome de la règle, comme nous le dit Piaget, quelle est la sanction du point de vue de la justice qui correspond à cette vision de la règle? Eh bien, c'est la sanction expiatoire. C'est toute la période de la construction d'Hippienne qui est nécessaire, qui est une étape nécessaire au développement, mais qui est dépassée par la suite, durant laquelle, finalement, l'enfant construit que la loi est intangible et construit le respect de l'adulte, respect qui, comme le dit Piaget, est un mélange d'amour et de crainte, mais qui est aussi, dans la dynamique oedipienne, empreint de la notion de faute et de culpabilité. Et donc les sanctions que choisissent les enfants à cette période sont des sanctions expiatoires, parce qu'en fait, une manière de pouvoir ne pas recommencer, c'est d'expier une faute on se sent coupable d'avoir commis une faute, et donc il faut chercher à expier. Mais en fait, on est dans une logique de violence, parce que à la fois on pense qu'il faut expier la faute, mais on cherche à reproduire la même chose vis-à-vis de l'autre, etc. Alors que, à partir du dépassement de la conception hétéronome de la règle pour arriver à ce que Piaget appelle une vision autonome. Alors autonome, c'est un sens absolu. On sait bien qu'il y a tout un processus d'autonomisation tout au long de la vie. En tout cas, ce qu'il décrit comme règle autonome, c'est la capacité d'utiliser la règle comme un système de régulation sociale, avec la prise en compte du fait qu'une action peut avoir des conséquences sur autrui. Au niveau de la conception autonome de la règle, les enfants, donc à partir de l'âge de 8 ans à peu près, choisissent plutôt des sanctions qui vont être des sanctions réparatrices. Cela signifie qu'ils comprennent que ce qui compte, c'est qu'une action va avoir des conséquences qui peuvent être négatives, et donc vont plutôt chercher à réparer la conséquence. Mais on n'est plus du tout dans la même logique, c'est-à-dire qu'on dépasse ces notions de faute et de culpabilité, qui renvoient à des choses sur le plan inconscient, pour arriver à la prise en compte de la réalité, et encore une fois de l'impact de ces actions sur autrui. Donc il nous semblait fondamental de pouvoir identifier tout cela chez ces jeunes pour voir quelles en étaient les conséquences. Alors aussi bien dans les situations pédagogiques, parce qu'évidemment pas maîtriser la multiplication, on voit les conséquences que ça peut avoir, ne pas s'être construit dans le temps et dans l'espace, ne pas avoir construit la décentration, on voit bien les conséquences que ça peut avoir sur le plan cognitif, mais aussi sur le plan du comportement, alors même qu'au quotidien, comme le rappelait Monsieur Castano tout à l'heure, Madame Cole pourra nous en dire quelques mots, c'est vrai que les questions du respect des règles, du respect de l'enseignant, des codes qui peuvent être établis, c'est quelque chose qui pose question au quotidien. Donc qu'est-ce qu'il en est du point de vue de la construction socio-cognitive de ces jeunes? Alors, nous avons retenu trois niveaux. Alors là, c'est vraiment les résultats résumés, hein, mais en gros, on a repéré qu'un tiers des jeunes présentaient des modalités de fonctionnement figuratif. Autrement dit, qu'ils restaient fixés sur la description des états. Et qu'ils n'avaient pas accès aux transformations. Alors, 35%, on est dans des proportions d'un tiers, un tiers, un tiers. Cela signifie que un tiers d'entre eux simplement, et donc presque 70% d'entre eux, ce qui correspond au résultat qu'on avait trouvé déjà par ailleurs et publié, n'ont pas construit une opérativité, c'est-à-dire qu'ils sont pas capables de catégoriser les moyens de transport. Alors au niveau 1, ils vont mettre ensemble parce que ça se ressemble, parce que ça va bien ensemble, mais sans arriver à rassembler entre eux certains moyens de transport qui vont bien ensemble. Le niveau 1, ça signifie aussi qu'il, par exemple, pour reproduire l'immeuble avec les cubes dont je vous parlais tout à l'heure, alors qu'on n'a pas la même surface, ils vont faire un immeuble de la même hauteur, alors qu'on aura une surface divisée par deux. Ça signifie également qu'ils n'ont pas construit en fait les opérations telles que la multiplication, et du coup que pour se repérer dans le temps et dans l'espace, ils vont avoir un repérage de proche en proche, donc comme vont le faire des enfants beaucoup plus jeunes. Mais là, ce qui nous intéresse plutôt que le niveau structural, hein, donc de non-construction des opérations concrètes, on s'entend, hein, on n'est pas sur de l'opératoire formel, eh bien, au-delà de ça, c'est bien leur modalité de pensée. C'est-à-dire qu'en fait, la causalité ne fait pas partie de leur système de pensée. Si on leur demande pourquoi... si on reprend leur vocabulaire, on leur prend la tête, quoi. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas donner d'explication, ça n'a pas de sens, je le sais, je le vois, c'est comme ça, mais réfléchir ou expliquer, c'est quelque chose de trop... enfin, qui ne fait pas partie de leur questionnement. Ils ont déjà... enfin, cela va pas de soi non plus, à partir de situations, de problèmes qu'on leur propose, de déjà devoir s'exprimer, répondre à une question et... La logique de l'action est un petit peu dissociée de la logique de la réflexion. Alors, ce qui est encore plus impressionnant, c'est tout ce qui concerne cette fois le jugement moral et donc l'hétéronomie. Donc on voit qu'on est dans des proportions très fortes, hein, puisqu'on n'a pas beaucoup de niveaux intermédiaires, mais 85% d'entre eux sont dans une conception de la règle hétéronome et de la justice également. Donc c'est la sanction expiatoire, hein, qui prime. On est dans une logique de non-élaboration en fait de la coopération, de sa logique, de la réciprocité, ni de la décentration. Donc on a relevé aussi des difficultés très importantes. Je crois que dans chaque classe, il y en avait un ou deux dans chaque classe qui arrivaient à coordonner les points de vue. Donc je vous rappelle, c'est concernant la poupée, hein, quand on présente les trois immeubles et qu'on demande ce que voit la poupée, il n'y en avait que un ou deux par classe qui parvenaient simplement à coordonner les images et en les mettant correctement telles que la poupée devait les voir. Et certains entraient à peine dans la différenciation des points de vue. Donc c'est vraiment du point de vue, c'est le cas de le dire, de la décentration et du jugement moral qu'on a trouvé les choses les plus marquantes, sachant que pour ce qui est de l'ordre de la construction cognitive, Je pense qu'au fil du temps, ils ont réussi de proche en proche à construire un raisonnement, mais où la causalité, encore une fois, n'est pas ce qui est perçu d'emblée, mais en tâtonnant, ils arrivent à construire un raisonnement qui leur permet de résoudre un problème. En revanche, sur ces notions de jugement moral, le constat est véritablement édifiant. Donc, ce qu'on relève dans ces résultats, c'est qu'ils ont des difficultés sur le plan cognitif. Comme je vous l'ai dit, avec du point de vue du raisonnement opératoire, donc avec un raisonnement plutôt type figuratif, et concernant également la décentration. Et sur le plan du jugement moral, donc les règles sont perçues, l'hétéronomie morale signifie que les règles ne sont perçues que comme un système coercitif. Ce qui signifie respect unilatéral. Donc avec, du point de vue de l'hétéronomie, quand c'est que le respect unilatéral qui existe, cela signifie que ces jeunes vont avoir des figures légitimes d'autorité, c'est-à-dire des personnes qui, à un moment donné, vont avoir une autorité légitime pour eux, donc qui vont respecter, pour une raison ou pour une autre, par la fonction qu'ils vont représenter, par leur attitude, et d'autres ne vont pas être des figures légitimes d'autorité, mais par un jugement complètement subjectif. Donc, et puis ça peut basculer de l'un à l'autre, et donc ils vont suivre certaines choses qu'on va leur dire, parce qu'à un moment donné la figure légitime d'autorité va être validée, et puis sinon ils vont être dans un comportement d'opposition, ce qui va leur donner l'impression de pouvoir ne pas se soumettre en fait à quelque chose qui leur semblerait trop contraignant. Alors le paradoxe, c'est que puisqu'ils sont construits selon ce système coercitif, ils vont être dépendants d'un cadre de répression ferme. Parce qu'en fait, c'est ce qu'ils vont attendre, c'est la seule façon possible pour eux de réguler un comportement. Donc ils vont dépendre de ça pour que leur comportement soit régulé, mais dans le même temps, ils vont tenter en permanence de transgresser ce cadre qui, par ailleurs, va être trop contraignant. Ce qu'on a pu constater également, c'est qu'on avait quand même, malgré tout, une hétérogénéité des comportements et des niveaux scolaires, malgré l'homogénéité des résultats. C'est-à-dire que on observe des résultats assez comparables d'une classe à l'autre. Alors, il y a des petites différences, il y a effectivement des classes qui sont plus en difficulté, mais c'est pas pour autant que les élèves qui ont les meilleurs résultats, pour autant, nettement, auraient on retrouve les mêmes proportions quand même, aurait vraiment un raisonnement opératoire pour autant, ce qui a pu surprendre, parce que certains avaient de meilleurs résultats, mais c'est leur comportement qui détermine la différence, c'est-à-dire qu'ils apprennent, enfin ils sont plus studieux, ils écoutent davantage, mais pour autant ils n'ont pas forcément beaucoup de recul par rapport à ce qu'on leur dit, ils comprennent pas forcément non plus, enfin ils maîtrisent pas forcément les règles de compréhension de ce qu'on va leur enseigner. Voilà, donc à partir de là, on a essayé de réfléchir ensemble aux perspectives concernant une transformation de l'approche pédagogique. Donc on a fait une restitution avec les enseignants pour essayer de construire avec eux la suite. Alors dans un premier temps, pour qu'ils connaissent ces résultats, ce qui les a quand même perturbés dans un premier temps, et puis ensuite en organisant une formation pour voir comment on pouvait réfléchir ensemble. Donc ce qu'on peut proposer à partir de ces situations, que par ailleurs on connaît dans d'autres lieux, c'est que ce qui va être important, c'est de pouvoir s'appuyer sur le niveau des jeunes et sur leur représentation. Parce que finalement, en parlant avec les enseignants, on s'est rendu compte qu'on était toujours dans des sollicitations qui étaient inadaptées par rapport aux compétences des élèves. Ce qui fait que en permanence, ils ne comprennent pas véritablement ce qu'on leur demande. Et du coup, ils se sentent en échec et abandonnent au bout d'un certain temps, parce qu'ils vont réussir un peu par hasard ou en prenant quelques indices. Et donc, il semblait, même si c'est un peu déroutant dans un premier temps, plutôt partir quand même des compétences qu'ils ont construites, puisqu'il y a forcément évidemment des compétences qui sont déjà là, pour pouvoir les renforcer et avancer avec eux, mais ce qui va demander de complètement revoir les modalités d'enseignement. Parce qu'en fait, pour partir du niveau des jeunes et de leur, alors, du niveau des jeunes du point de vue cognitif, on pourrait dire, pour simplifier, et de leur représentation concernant le jugement moral, ça demande de modifier la pédagogie dans la mesure où ce qui va être nécessaire, c'est de permettre aux jeunes de s'exprimer. Or, précisément, hein, la manière dont on explique ce que je vous disais tout à l'heure, les constats qu'on fait concernant l'hétéronomie et la figurativité chez ces jeunes, dans ces populations, c'est que précisément, ils ont peu l'occasion de s'exprimer. Hein, parce que du fait de l'environnement où ils sont beaucoup dans la rue, avec les logiques qui prévalent et peut-être des figures d'identification pour le coup dans ces contextes-là qui vont être des adultes ou en tout cas des plus âgés qu'eux qui vont être dans des logiques où c'est la réussite qui compte, où c'est l'action et pas forcément la réflexion, la pensée, le débat. Donc du coup, c'est le système qui va prédominer. Donc il va être important de pouvoir leur offrir précisément un espace d'expression où on va partir de leur représentation à eux et en les sollicitant à s'exprimer autour des situations. Alors c'est toute la dynamique des pédagogies actives, enfin qui passent par l'action, et des pédagogies interactives, parce que comme je vous le disais, on se rend compte qu'ils n'ont pas l'habitude de s'écouter, de s'exprimer et d'écouter ce que vont dire le point de vue des autres, de prendre conscience que l'autre a un point de vue et à partir de là d'engager un débat. Mais on n'en est même pas dans une logique de débat. Déjà, dans les situations qu'on a pu commencer à mettre en place, on se rend compte que déjà, c'est important de pouvoir les laisser s'exprimer. Évidemment, ça va avoir une importance aussi dans la considération, parce qu'on va avoir parfois une estime de soi qui va être du coup mise en difficulté, parce qu'ils sont peu sûrs d'eux, ils sont souvent en échec, et on prend confiance en soi précisément quand on s'exprime, que les autres nous écoutent et qu'on se rend compte que notre point de vue peut être intéressant et peut être entendu. Donc ça a aussi des effets à ce niveau-là. Alors, toujours pour modifier les logiques pédagogiques pour les enseignants, à partir du moment où on met en place une pédagogie interactive de résolution de problèmes, comme on l'a sollicité, comme on a l'habitude de le faire, ça permet aussi de s'appuyer sur l'hétérogénéité, évidemment, des jeunes pour le travail en groupe, alors que c'est quelque chose qui est souvent évoqué, hein, les jeunes n'étant pas du même niveau, ça peut être quelque chose qui est perçu dans un premier temps comme complexe, quand on est plutôt dans une logique de transmission des savoirs et non pas d'expression. Et du coup, ça suppose d'appuyer la théorie faite en classe entière sur des réalisations en petits groupes, en partant de la réflexion des jeunes en petits groupes, pour ensuite aboutir à une théorie qui serait une formalisation de ce qui a été expérimenté. Du coup, ce qui est important aussi dans cette logique-là, c'est d'utiliser des supports de médiation, des supports concrets, comme des situations-problèmes qu'on a présentées, par exemple, dans l'examen opératoire. Alors, ça permet aussi de créer un espace de réflexion dans un cadre qui soit ferme. Donc, la notion de cadre va être importante. Mais autour de ça, toute la notion de transitionnalité, d'appropriation de l'espace de réflexion, qui soit un espace à eux, pour qu'ils aient l'impression que ça soit pas transmis de l'extérieur, mais qu'ils puissent en faire quelque chose. C'est vrai que cette pédagogie permet aussi de le développer. Il nous semblait dans les préconisations aussi important de mettre en place un temps spécifique pour l'élaboration du jugement moral, parce qu'en fait, c'est vraiment quelque chose qui ne peut pas être uniquement réduit aux apprentissages. C'est-à-dire que tout ce que je viens de dire jusqu'à présent, c'est plutôt une préconisation pour les enseignements fondamentaux des matières en tant que telles. Et donc, on a commencé à travailler avec les enseignants, hein, à partir de... Et eux ont déjà commencé à le mettre en place pour des cours de géographie, d'histoire, d'anglais, de français. Comment mettre en place une pédagogie interactive de résolution de problèmes. Donc, on a bien la notion des règles, des régulations qui se travaillent, de la coopération, de la réflexion. Ceci étant, le jugement moral en tant que tel est une notion qui est à part, et il nous semble fondamental de proposer aux élèves, et c'est une préconisation, de réfléchir sur leurs actions. Donc de la même façon qu'on a proposé des petites histoires autour du retard, des jets d'objets, etc. Donc la préconisation qu'on ferait serait d'organiser par exemple tous les 15 jours 2 heures avec un enseignant, que ce soit un enseignant, le prof principal ou un autre, ou peut-être à partir des heures de vie de classe, une organisation structurée où on partirait alors d'épreuves, ça peut être intéressant de l'initier avec un photolangage d'ailleurs, qu'on a commencé à faire avec les enseignants, pour que ce soit cet espace qui soit le leur et que ça favorise un peu les représentations et l'expression facilitée en dehors de situations pédagogiques. Et puis ensuite, d'avoir une réflexion autour du jugement moral sur des situations soit apportées par l'adulte, mais pour aller progressivement vers une régulation des comportements des élèves eux-mêmes par des séances régulières, où les élèves prendraient l'habitude de parler, par exemple, de ce qui s'est passé dans tel cours ou dans tel couloir ou au sujet de tel retard, pour avoir l'habitude, finalement, d'avoir un retour réflexif qui favorise une prise de conscience. Mais si cet espace-là n'existe jamais en dehors de convocations parce qu'ils ont enfreint une règle ou parce qu'ils ont eu un comportement délictueux, on pourrait dire que c'est un peu pervers, parce que finalement, il va être obligé de faire quelque chose, de transgresser, pour avoir l'occasion d'aller parler à un adulte de ça, là où ils ont peut-être besoin d'élaborer quelque chose de stable sur ces questions du jugement moral, c'est-à-dire, finalement, comprendre, discuter entre nous de ce qui fait qu'une règle est une règle, pourquoi il faut la respecter, à quoi ça correspond, quel est leur point de vue sur cette question, et finalement d'élaborer leur point de vue. Et si on ne leur propose pas, moi je suis à peu près convaincue que si on ne leur propose pas des situations régulières dans lesquelles ils puissent passer de l'action à la formalisation de l'action, alors même qu'ils ont peu l'occasion de le faire ailleurs qu'à l'école, eh bien ils ne peuvent pas le construire tout seuls. Donc voilà. Et tout cela, ça me semble important de le penser aussi avec des co-interventions. Ça a plusieurs avantages. Déjà, il y a une situation qui est à ne pas négliger, c'est la difficulté des enseignants d'être seuls dans une classe. Je parle pas du nombre d'élèves, c'est important aussi, mais je parle encore d'autre chose. Plusieurs enseignants nous ont dit qu'ils avaient peur de tourner le dos pour aller au tableau, parce que voilà, il y a eu des cas de jet d'objets qui ont été fréquents. Et le fait de ne pas être seul dans une classe, ça me semble être quelque chose d'important et qui permet aussi d'avoir un autre regard. Parce que c'est compliqué on demande d'avoir un regard sur le programme, sur le comportement des élèves, sur leur raisonnement, sur la régulation. Et je me dis que le fait d'être deux, ça permet d'échanger aussi après, à deux, de réfléchir à ce qui s'est passé et d'avoir peut-être un poids aussi moins lourd. Concrètement, du point de vue de la sécurité, c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant. Alors pas forcément avec deux enseignants, ça peut être un autre professionnel. Bon, c'est pas des choses que je maîtrise forcément, mais ça permet aussi à un moment donné de pouvoir faire des groupes moins importants, parce que une pédagogie interactive de résolution de problèmes à 30, c'est pas très productif. Donc en faisant deux groupes de 15, tout de suite ça devient possible, hein. Donc voilà, à la suite de tout ce qu'on a pu faire, quelles sont nos propositions. Je vais laisser la parole maintenant à Madame Cole, qui est conseillère principale d'éducation et qui a participé avec nous au programme.
Voilà, donc moi je suis la conseillère principale d'éducation qui travaille avec les entrants du lycée, donc les secondes professionnelles et les premières années de CAP. J'ai participé à l'expérience depuis le début. Et j'ai participé à la formation. Donc en fait, Anne-Marie parlait du préfet des études. Donc pour le coup, je vais en parler, parce que finalement, dans le dispositif éclair, il y avait la mise en place d'une nouvelle mission. Et je trouve que ça a un rapport avec cette formation, puisqu'il s'agissait de... C'était quelque chose qui était entre l'éducatif et le pédagogique. Hein, quand on a commencé à regarder la circulaire... Et il s'agissait un peu, quand on a participé aux premières réunions, de mettre un peu d'éducatif dans le pédagogique. C'était un peu présenté comme ça dans les premières réunions. Et nous, c'est vrai qu'au lycée professionnel à Seguin, on s'est dit que c'était pas forcément, qu'il y avait déjà peut-être quelque chose à voir au niveau du pédagogique, que déjà dans les classes, il se passait déjà des choses entre les pratiques des enseignants et le niveau de nos élèves, il y avait peut-être déjà un décalage. Et puis que finalement, dans les classes, les profs avaient l'impression de faire tout le temps de l'éducatif. Il s'agissait de faire des sortes de vie de classe un petit peu sauvage. À chaque fois qu'il y a un incident, qu'il y a un jet d'objet, donc il y avait les profs étaient beaucoup dans la discussion avec les élèves, mais de manière un peu anarchique. Donc moi, je trouve que cette expérience, elle répond quand même bien à ce besoin, je trouve, d'agir un petit peu sur les deux. Donc moi j'ai participé depuis le début. Quand on a commencé à faire les tests, c'est vrai que c'était pas évident pour toute la communauté scolaire déjà, hein, puisqu'il y a eu beaucoup de réticences de certains personnels de tester les élèves. Ensuite, pour ce qui a été de la, quand vous avez présenté le diagnostic, les réactions ont été un petit peu surprenantes, parce que c'est vrai que nos élèves ils étaient un peu nuls. Ils étaient beaucoup dans le rouge. Et puis, c'est vrai qu'il y a certains profs qui, du coup, disaient ben, « Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, qu'ils passent leur bac avec ça ?» Donc, les réactions étaient un petit peu différentes. C'était soit « T'as vu comme ils sont nuls ?» Soit « Dis donc, c'est normal qu'on n'arrive rien à faire, quoi. » Donc, c'est un peu compliqué de présenter... La présentation n'a pas été évidente. Mais c'est vrai qu'il montrait vraiment, hein, ce qui sautait aux yeux, c'est qu'on était loin, du programme. Hein. Certains profs l'ont noté ce jour-là, qu'il fallait peut-être réfléchir autrement qu'à partir d'un programme, vu les résultats des tests de nos élèves. Donc ensuite j'ai participé à la formation. Donc la formation dans un premier temps c'était avec un groupe, on était une quinzaine, hein, et de professeurs volontaires. Donc il y avait une dizaine de profs du lycée professionnel, particulièrement des profs d'entrants. Donc là, Béatrice nous a présenté, a commencé par nous parler de la psychologie de l'ado. Donc ce qui était, j'ai vu là dans le programme là qu'on parlait de la formation des enseignants. Donc ce qui sautait aux yeux c'est que dans la formation des enseignants, certains profs ont dit que c'était la première fois qu'on leur en parlait. C'est la première fois qu'ils entendaient parler du développement psychologique de l'adolescent. Et à un moment donné, on s'est même dit qu'un animateur était peut-être mieux formé qu'un professeur à la psycho de l'ado. Donc là, déjà, certains profs ont découvert certaines choses. Hein. Et puis, on a travaillé effectivement avec le photolangage sur les représentations de nos missions. Donc là, c'était moi en tant que témoin. Hein, je trouvais que vraiment, il y avait de tout et des choses très, très différentes. C'est-à-dire qu'on travaille, on a l'impression qu'on fait tous le même boulot, mais on se rend compte qu'on n'a pas du tout la même façon de voir les choses et de s'imaginer notre fonction d'éducateur et d'enseignant. Ensuite, donc, j'ai participé pas plus tard que... Alors déjà là, au niveau de la formation, il y a déjà des profs qui avaient déjà réfléchi par rapport au diagnostic, vu les compétences des élèves. Et donc, comme tu disais tout à l'heure, il y avait un prof d'histoire qui a découvert, par exemple, qui travaille en histoire depuis des années, hein, et depuis le début de l'année. Donc en histoire, il y a souvent les effets, les causes. Hein, c'est à peu près dans tous les cours. Et finalement, il a découvert qu'en fait, il y a quand même un élève à qui il a laissé parler et qui lui a dit « ça veut dire quoi, conséquence ?» Et en fait, il s'est rendu compte depuis le début que la cause, la conséquence, c'était une notion que nos élèves ne maîtrisaient pas. Donc, il a refait tout son cours autrement. Donc là, pour l'instant, il est en train de reprendre tous ses cours. Il essaye aussi de le refaire. Donc, il y a déjà des effets sur les enseignants, puisqu'il a repris tous ses cours, et il le fait à partir de manipulations. Il n'est pas toujours très à l'aise, hein, puisque l'autre fois, il nous a dit « je fais du ludique ». Il nous a dit « je fais du ludique ». Il était un petit peu méprisant par rapport à ça, mais finalement, il s'est rendu compte qu'il allait beaucoup plus vite. Donc, l'autre fois, il est venu me voir en me disant « je suis coincé, il faut tout que je reprenne mes cours, parce que j'ai déjà fini ». Donc, ils ont avancé beaucoup plus vite en manipulant. Chose qui n'est pas toujours faite, pourtant, avec des élèves de seconde bac pro. Et j'ai participé vendredi à la première séance d'atelier. Donc, il s'agissait de mettre en place des séances avec un groupe d'élèves sur le développement cognitif et sur le jugement moral. Donc là, je suis intervenue en co-intervention, co-animation, je ne sais pas, avec une prof de maths. Donc, pareil, là, j'ai découvert que ça n'allait pas de soi. Ça ne va pas de soi. On a beau se dire, parce que les profs, dans tous les projets qu'ils mettent en place, ils parlent toujours de co-animer, co-intervenir. Mais finalement, moi, vendredi, je m'en suis vue. Hein. Pour co-animer, ce n'était pas si simple. Et la prof de maths aussi. Je sens que je l'ai un petit peu énervée, qu'elle était un peu impatiente et que ce n'était pas si simple de co-animer. Parce que... Et pour elle, c'était aussi difficile en tant que prof de maths. Vous nous aviez demandé à ce que les élèves réfléchissent. Et donc, ils réfléchissaient des fois un peu de travers. Et pour elle, ce qui était important, c'était que ce soit juste. Donc, à un moment donné, elle disait, mais ils ne peuvent pas partir sans que ce soit juste. Il faut vraiment qu'on arrive à leur dire les choses. Donc, c'était vraiment intéressant de se rendre compte qu'on n'a pas l'habitude, ils n'ont pas tellement de lieux où ils peuvent se permettre de réfléchir, de se tromper et d'avoir d'autres possibilités. Donc, ensuite, j'ai participé à la partie jugement moral. Hein. On avait mis en place un jeu de rôle à propos d'un vol. Donc, c'est bien tombé, puisque sur le jeu de rôle, j'étais le voleur. Et non pas le cadre de répression ferme. J'étais le voleur. Et c'est vrai qu'après, pour discuter avec les élèves, enfin, à partir du débat, c'est pas si simple pour nous, éducateurs, de pas tomber dans la morale, de pas tomber dans le bien, le mal, la loi, pas la loi, et de les laisser parler et d'aller jusqu'au bout de leurs réflexions pour qu'ils arrivent à réfléchir à une autre forme, à une autre façon de penser. Hein. Donc... voilà, donc là, pour l'instant, nous, on en est là de l'expérience, hein, c'est pas fini. Mais moi, en tant que témoin, hein, de participer à cette formation, je trouve qu'il y a, ça a quand même un sens par rapport à justement ce fameux préfet des études, éducation, parce que je trouve que cette expérience, elle joue sur les deux. Elle joue d'une part sur les élèves et aussi sur les pratiques des enseignants. Mais à travers la pratique des enseignants, c'est à travers leur pratique dans la classe par rapport à leur cours, par rapport à la façon de faire leur cours, mais aussi par rapport à leur façon de revoir ce quand ils disent « je fais de l'éducatif toute la journée hein, », des fois ils nous disent ça. Ben, peut-être essayer de trouver des idées, enfin de trouver un autre système pour faire des temps de réflexion avec les élèves ou des temps de vie de classe, puisque ça existe la vie de classe. Hein. En fait, ça existe dans les classes, dans les textes, de réorganiser des vies de classe qui en soient vraiment, qui soient profitables aux élèves à travers une méthode interactive. Voilà, la limite après qu'avec les profs, quand on en discute, c'est vrai que nos expériences, on les a fait, on était 2 profs, 6 élèves, et que, bon, bah, il y a des fois ils sont 15, des fois ils sont 24, et c'est pas. Je ne sais pas si l'institution nous permet toujours de nous offrir le luxe d'être 6 ou 8 ou 12.
Enfin, au-delà de ça, là, on pourra en reparler quand même. Moi, comme chef d'établissement, ce que je voudrais dire, c'est que, en fait, j'ai affaire à des élèves, des enseignants qui sont dans une grande souffrance et que dans ce projet-là, moi, j'y trouve du sens et je suis persuadé qu'on leur propose une solution. Alors, je suis quand même dans une situation où j'ai affaire à des gens qui me disent il faut être en demi-groupe, à deux, fixer un cadre ferme qu'il faut tenir par la répression. Donc, j'assume tout ça. J'assume tout ça parce que je comprends ce qu'on me dit et je vois une possibilité d'évolution du système. Donc, on va voir où est-ce que ça nous mène, mais en tous les cas, on croit à ce qu'on fait.